dans son édition du 5 octobre dernier 2011, suite à la défaite humiliante de l'équipe de France de rugby face au Tonga. Le journal 20 minutes a consacré un article à la crise qui traverse apparemment le monde du rugby. Pourquoi les rugbymen, français notamment, sont-ils tellement unpredictable? Pas mal mon anglais, non? Imprévisible, c'est-à-dire capable du meilleur, victoire brillante contre l'Angleterre, vous vous rappelez, comme du pire, défaite contre les Tonga. Pourquoi ont-ils parfois manqué d'esprit d'équipe, d'esprit de corps, on pourrait dire, d'unité? Le foot, parfois caractérisé par un manque de valeur morale, est-il en train de déteindre sur le rugby? Demande le journal. Le foot est-il en train de déteindre sur le rugby? Eh bien, de la même manière, pensez-vous que le foot est en train de déteindre sur l'Église en général? Sur notre assemblée en particulier? Pensez-vous que l'Église en général, que notre assemblée ou que l'assemblée que vous fréquentez, peut-être si vous êtes de passage, est-ce que vous pensez que l'Église a l'esprit de corps à cœur? Ce n'est pas vraiment le cas de l'église de Corinthe, une église, comme vous le savez peut-être, divisée, et dont les problèmes sont dus en partie, à mon sens, à une mauvaise conception du corps, une conception notamment influencée par la philosophie grecque, qui valorise l'âme au détriment de la matière, et l'esprit au détriment du corps. Certains croyants aspirent, par exemple, à une relation purement spirituelle avec Dieu, et boycottent toute relation physique, même dans le cadre du mariage. Certains disent « l'abstinence et le célibat font de nous des chrétiens TTS ». Vous savez ce que c'est que des chrétiens TTS? Très très spirituels. Et puis d'autres, au contraire, estiment que le corps n'a pas vraiment d'importance et que tout est permis dans la vie chrétienne. L'inceste, par exemple. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 13. Des procès entre frères. Chapitre 6, versets 1 à 11. La fréquentation de prostituées. Chapitre 6, versets 11 à 20. Vous comprenez? Comme si le mépris du corps physique avait inévitablement entraîné le mépris du corps de Christ qu'est l'Église, le mépris des autres. C'est parce que certains pensent que le corps n'a aucune importance qu'ils se permettent de fréquenter des prostituées, de mépriser les autres en leur faisant des procès, ou de pratiquer l'inceste. Vous voyez le lien entre les deux, comment une mauvaise conception du corps physique a des conséquences sur la façon dont nous traitons, dont les Corinthiens en tout cas traitent les autres. Tout ça pour dire que l'église de Corinthe n'a pas vraiment l'esprit de corps à cœur, dans tous les sens du terme. Et l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, puisqu'il en a écrit deux, va essayer de rectifier le tir en donnant une réponse résolument christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ, que l'on pourrait peut-être résumer ainsi. Les enfants, si vous êtes en train de faire le questionnaire, c'est à vous de jouer. La mort, la résurrection corporelle et le retour de Jésus doit déterminer la vie du croyant dans le monde et son service dans l'Église. La mort, la résurrection corporelle et le retour de Jésus doit déterminer votre vie, si vous êtes chrétien, dans le monde, et votre service dans l'Église. Et dans le chapitre 12 à 14, qui forme une unité à part entière, Paul applique cette réponse christocentrique, centrée sur Christ, dans le domaine très particulier, très controversé, j'en suis conscient, des dons spirituels, à propos desquels les Corinthiens sont divisés, alors que le but des dons est précisément d'unir les croyants. Une ironie assez tragique, n'est-ce pas? Les Corinthiens sont divisés à propos des dons spirituels, alors que le but des dons est précisément d'unir les croyants. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité, c'est par elle que nous pouvons vivre. Nous te demandons de nous faire vivre par ta parole, sous l'action bienfaisante de ton Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te le demandons. Amen. J'aimerais voir trois choses avec vous ce soir. Et le plan de ce message est dans les bulletins. que vous avez pris à l'entrée. Premièrement, j'aimerais voir avec vous que le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, des versets 1 à 3. Deuxièmement, des dons différents, des versets 4 à 11. Et troisièmement, une dépendance réciproque, des versets 12 à 31. Premièrement donc, des versets 1 à 3, le Saint-Esprit donne à tous les croyants, et si vous êtes croyant, vous êtes concerné, la même confession. Versets 1 à 3. Dans ces trois premiers versets, Paul répond à une question posée par les Corinthiens. Regardez le verset 1 encore. Celle des manifestations ou des choses spirituelles. C'est très bizarre parce que dans ma Bible, le mot don est entre parenthèses. Dans la vôtre aussi peut-être. Tout simplement parce que le mot employé en grec, pneumatikon, est très difficilement traduisible par don spirituel en fait. Il s'agit plutôt de choses spirituelles ou de manifestations spirituelles. C'est pour ça que le mot « don » est entre parenthèses. Le mot « don » n'apparaît pas du tout dans l'original. Pas du tout. Pneumatikon, les pneus Michelin, par exemple. Ok ? Ça vient de là, tout ce qui relève de l'esprit. C'est pas grave. Voilà, cette question des pneumatikon, des choses spirituelles, des manifestations spirituelles, a été posée sans doute par deux catégories de croyants. J'essaie d'être un peu prudent, mais je pense que cette question a peut-être été posée par deux catégories de croyants. Des croyants d'un côté charismatique, au sens moderne du terme, ok, voulant faire de certaines choses spirituelles, de certains pneumatikons, d'accord, des preuves irréfutables, des critères infaillibles de spiritualité authentique. Par exemple, le fait que j'ai le don du parler en langue prouve que je suis spirituel et que le Saint-Esprit est en moi. D'un autre côté, des croyants non charismatiques, plutôt sceptique, voulant remettre en question l'authenticité de cette spiritualité manifestée par ces choses. Autrement dit, la question posée est certainement la suivante. Paul, nous Corinthiens, nous posons la question suivante. Parce que là, Paul apparemment répond à une question posée par les Corinthiens. Certaines manifestations ou choses spirituelles, certains pneumatikons, constituent-elles une preuve irréfutable, un critère infaillible de spiritualité authentique ? Question intéressante, n'est-ce pas? Et la réponse de Paul, aux charismatiques et aux non-charismatiques d'ailleurs, est dans un premier temps assez ironique. Regardez le verset 2, encore avec moi. « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ces choses, les amis, les Corinthiens. Quand vous étiez païens, c'est-à-dire non-juifs, non-chrétiens, votre ignorance était notoire en la matière. » Je paraphrase. « Souvenez-vous, les petits loups. » Souvenez-vous, Vous adoriez des idoles muettes. » Peut-être des statues. Ce qui n'est pas franchement spirituel entre nous. Adorer des statues, ok? Un peu d'humilité, s'il vous plaît, dans un premier temps. Un peu d'humilité. Et puis la réponse de l'apôtre est dans un second temps résolument christocentrique, comme nous l'avons dit. Paul dit à peu près ceci, la preuve irréfutable, le critère infaillible qui certifie une spiritualité authentique, ce n'est pas du tout une manifestation ou une chose spirituelle, ce n'est pas du tout un pneumatikon que nous pouvons utiliser pour nous grandir aux yeux des autres. Pas du tout. C'est la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit au verset 3, qui ne peut se faire que grâce au Saint-Esprit. Absolument. Ce n'est pas grâce aux dons, ou au pneumatikon, ou à une chose spirituelle, ou à une manifestation spirituelle, mais grâce au Saint-Esprit que vous êtes en relation avec Jésus. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, celle de la Seigneurie de Jésus-Christ. Cette confession est-elle la vôtre ce soir? Si tel est le cas, si vous faites partie de ceux qui confessent que Jésus est Seigneur, votre Dieu, votre Maître, si vous confessez que le monde ne tourne pas autour de vous, mais autour de Dieu, si vous estimez que la vie consiste à ne pas vivre pour vous-même et pour lui, pour Dieu et pour les autres, ne laissez jamais personne, jamais vous dire que vous n'êtes pas spirituel ou que le Saint-Esprit n'est pas en vous parce que vous ne manifestez pas certaines choses spirituelles, comme le parler en langue par exemple. La confession de la Seigneurie de Jésus est non seulement la preuve irréfutable selon ce verset 3, le seul critère infaillible, mais aussi le seul critère, la seule preuve que le Saint-Esprit est en vous. C'est aussi le premier don, si j'ose dire, la base, le fondement de l'esprit de corps qui devrait être celui de tous les croyants en vue du service. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans un second temps. Premièrement, le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, la seigneurie de Jésus-Christ, rendue possible par la médiation du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons différents. Regardez les versets 4 à 11 encore. C'est dans ces versets que Paul dit cela. Dans ces versets, c'est un peu comme si Paul disait « Corinthiens, mes amis, les petits loups, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en matière de choses spirituelles. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, c'est vrai, celle de la seigneurie de Jésus, mais cela ne veut pas dire que tous les croyants sont les mêmes, des clones, un peu comme la brebis Dolly. Est-ce que vous vous rappelez de la brebis Dolly ? Le premier mammifère cloné, d'accord, de l'histoire en 1996. Attention, je me suis renseigné. Okay. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, c'est vrai, mais aussi des versets 4 à 11, des dons différents. Quelle est la source de ces dons ? Bien, regardez les versets 8 à 11. Hein. Un seul Dieu, un Dieu unique et trinitaire. Un quant à la nature, trois quant aux personnes. Un Dieu unique et trinitaire par l'intermédiaire ou la médiation du Saint-Esprit. Regardez le verset 8 encore. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Regardez le verset 9. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit. Regardez le verset 11 encore. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ce qui a fait dire à John Owen, un pasteur et un théologien britannique bien connu, que ces dons sont des largesses arbitraires de Dieu. C'est beau, non ? Des largesses arbitraires de Dieu. Quelle est la source de ces dons ? Un seul Dieu, par la médiation, l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Maintenant, quel est le but de ces dons ? Bien, regardez le verset 7. Quel est le but de ces dons, finalement ? L'intérêt personnel ? Pour se grandir aux yeux des autres ? Pas du tout. Verset 7. L'intérêt commun pour faire grandir les autres, pour contribuer à l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. Le Dieu trinitaire, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, donne donc à tous les croyants une même confession, mais aussi des dons différents, des dons surnaturels. Regardez encore le verset 10 avec moi. Des dons complètement surnaturels comme des miracles, des guérisons et la foi. Non pas la foi qui sauve, qui est attribuée à chaque croyant, la foi est un don, hein, mais une foi qui transporte les montagnes. C'est comme ça que Paul va parler de ce don au chapitre 13 ou au verset 2. Une foi extraordinaire, un peu comme celle de George Müller. Est-ce que vous connaissez George Müller ? George Müller était le directeur d'un orphelinat à Bristol, en Angleterre, et qui a reçu des dons de nourriture quelques heures seulement avant le repas des enfants. Et George Müller était connu, c'est vrai, pour sa foi extraordinaire, hein, qui transporte les montagnes. Donc des dons, c'est vrai, surnaturels. Mais aussi des dons naturels, tout à fait ordinaires, comme le fait de secourir ou de gouverner, par exemple, dont il est question au verset 28. Alors nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail de cette liste de dons, mais deux remarques s'imposent, à mon avis. La première, c'est que cette liste n'est pas du tout exhaustive. Le Nouveau Testament mentionne d'autres dons. Je vous renvoie à Romains 12, versets 3 à 8, à Éphésiens 4, versets 7 à 12, à 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Le Nouveau Testament mentionne d'autres dons, mais certains dons ne sont pas du tout mentionnés dans la Bible. L'histoire de l'Église, peut-être vous-même, mais l'histoire de l'Église ne témoigne-t-elle pas qu'elle a pu être édifiée par plusieurs dons au fil des siècles ? Augustin, Calvin, Luther en tant que théologien, Charles Wesley en tant que compositeur de cantiques magnifiques, C.S. Lewis en tant qu'apologète, défenseur de la foi chrétienne, Hillsong. J'écoutais ce matin encore sur YouTube une chanson de Hillsong Kids, Hillsong pour les enfants. Je ne savais même pas qu'ils avaient des chansons spécialement consacrées aux enfants. En tant que groupe de musique, mais ne pouvons-nous pas témoigner que nous avons été édifiés dans notre foi par des dons qui ne sont pas mentionnés dans la Bible ? Et puis la deuxième remarque qui s'impose, c'est que cette liste n'est pas un classement par ordre d'importance. L'ordre des dons est différent dans les autres textes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie des dons. Dans un sens, il existe une certaine hiérarchie selon le chapitre 14 et le verset 1, le chapitre le plus croustillant de cette série. Il va falloir revenir hein, pour savoir ce que, voilà, ce que je pense de la prophétie, du parler en langue notamment. Accrochez-vous. Mais aucun don n'est à surestimer. Aucun don n'est à surestimer ou à sous-estimer, à exalter ou à mépriser, d'accord ? Aucun don n'est supérieur à un autre en tant que critère infaillible, en tant que preuve irréfutable de spiritualité authentique. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, la seigneurie de Jésus. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons différents pour le bien commun, d'accord ? Pour que les croyants aient l'esprit de corps à cœur et contribuent à l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. Alors à la lumière de ces versets, hein, 4 à 11 notamment, vous vous attendez peut-être, secrètement, dans votre esprit, à ce que je vous pose cette question. Mais quels sont vos dons, les amis? Quels sont vos dons? Eh bien, je préfère vous poser une autre question. Je sais que cette question pourrait être posée, qu'elle a fait l'objet de certains livres, hein, mais je préfère vous poser cette question et me la poser à moi-même en premier, bien entendu. Comment servir? Comment servir? Comment manifester le don de l'esprit de corps? Comment manifester le don de l'esprit de corps dans notre Église? Comment pourrions-nous exercer les différents dons que Dieu nous a accordés dans sa grâce, qu'il nous a donnés pour le bien commun, pour l'encouragement des croyants que nous sommes, pour répondre aux besoins de notre assemblée? Chaque semaine, comme Alex le précise en début de culte, nous faisons appel à des volontaires pour participer à l'organisation de ce culte. Et je sais que certains d'entre vous sont très investis et je vous remercie de ce service précieux. Mais chaque semaine, nous essayons de faire appel à des volontaires pour participer à l'organisation de ce culte dans 5 domaines. L'accueil, qui consiste à mettre en place un panneau à l'entrée, d'accord ? Donc 2 panneaux à l'extérieur et à l'intérieur pour que les gens puissent se diriger. À distribuer des bulletins, par exemple, à ceux qui visitent notre église pour la première fois, des recueils de chants, mais aussi accueillir de nouvelles personnes. Ça fait partie de l'accueil. Je pense aussi à la musique pour ceux qui jouent d'un instrument. Je pense aussi à la garderie, à la collation, au rangement de la salle après le culte. Il s'agit simplement de passer un peu l'aspirateur. Merci beaucoup si vous avez déjà fait ça et si vous êtes déjà inscrit. Mais sachez vraiment qu'il y a la possibilité de pouvoir servir l'église dans ce sens. Pourquoi ne pas servir dans l'un de ces domaines la semaine prochaine ou dans les semaines suivantes? Qu'attendons-nous? Qu'est-ce que j'attends personnellement aussi? Qu'est-ce que j'attends pour mettre au service de l'Église, de la communauté des croyants que nous formons, les différents dons, les capacités, les dispositions que Dieu, dans sa grâce, nous a accordées? Mais vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas vraiment de dons, de capacité ou de disposition, ou bien qu'une autre personne dans l'Église a les mêmes dons que vous, et que du coup, vous ne pensez pas à avoir de rôle à jouer dans l'Église. Vous comprenez, une autre personne a les mêmes dons que moi, elle fait très bien son travail, je ne vois pas pourquoi j'aurai ma place dans l'Église. Eh bien, voyez-vous, c'est notamment pour répondre à cette objection que Paul illustre ce qu'il vient de dire. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons différents par une analogie, une métaphore dans les versets suivants. Ça nous amène à notre troisième et à notre dernier point. Premièrement, le Saint-Esprit donne à tous les croyants la même confession, d'accord ? La seigneurie de Jésus, rendue possible uniquement par la médiation du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons différents. Troisièmement, le Saint-Esprit donne à tous les croyants une dépendance réciproque. Des versets 12 à 31. Est-ce que vous avez remarqué une chose dans ces versets ? Avez-vous remarqué que de la même manière qu'il y a un seul Dieu et plusieurs dons dans les versets 4 à 11, vous vous rappelez la source des dons, un seul Dieu, mais plusieurs dons, un seul Dieu, plusieurs dons. Est-ce que vous avez remarqué que de la même manière dans ces versets 12 à 31, il y a un seul corps et plusieurs membres? Dans ces versets, Paul compare l'Église à quoi? À un corps. Les croyants, verset 13, hein, forment un seul corps à la fois unique et diversifié, un peu à l'image du Dieu trinitaire, qui est à la fois un quant à sa nature et trois quant aux personnes. Et quelle est la base de cette unité? Mais je crois que la réponse se trouve au verset 13. Regardez encore le verset 13 avec moi, un verset qui pourrait faire l'objet d'un débat théologique sans fin. dans lequel je ne vais pas me lancer, rassurez-vous, mais dont l'idée principale me semble assez claire, c'est que nous, regardez le verset 13 encore, hein, nous, les chrétiens, me semble-t-il, hein, avons tous été baptisés, on pourrait traduire abreuvés, voire inondés, d'un seul et même esprit. En d'autres termes, si vous confessez la Seigneurie de Jésus ce soir, vous n'avez pas besoin, je sais que c'est polémique, mais c'est ma conviction, je ne pense pas que vous ayez besoin de demander à Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit à partir de ce verset. Pourquoi ? Parce que selon ce verset, ou selon ce que je crois comprendre en tout cas de ces versets, ce que vous l'êtes, déjà le Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse n'invite jamais, jamais, jamais les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit pour la bonne et simple raison qu'ils le sont déjà, car c'est dans un seul et même esprit que nous tous, verset 13, avons été baptisés. En revanche, la distinction est fondamentale. En revanche, sur la base de ce baptême du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit, qui a eu lieu une bonne fois pour toutes, à la conversion, me semble-t-il, hein, le Nouveau Testament encourage les croyants à être remplis du Saint-Esprit. Et je fais référence à Éphésiens, chapitre 5, verset 18, notamment. Et voyez-vous, la distinction entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, cette distinction est fondamentale. Et je vous conseille la lecture de ce livre, si vous vous posez plus de questions. Ce livre qui a changé ma vie. Enfin, peut-être pas, hein. La Bible a changé ma vie, Jésus a changé ma vie. Mais ce livre de John Stott, du baptême à la plénitude, disponible à français pour la modique somme de 4,40 €. C'est un livre remarquablement équilibré sur cette question. Je le mets à votre disposition, si vous voulez le feuilleter, il est disponible à la CLC, à la Maison de la Bible, il me semble. C'est un bon investissement, si vous vous posez des questions à ce sujet. Le baptême dans un seul et même esprit fait de tous les croyants les membres d'un seul et même corps, vous comprenez ? Un corps uni, dont ils font tous partie, mais diversifié, au sein duquel ils dépendent les uns des autres. Et c'est cette vérité-là que Paul illustre en mettant en scène de manière assez amusante. J'ai bien ri quand j'ai lu ce passage. Je ne sais pas si vous avez ri. De manière assez amusante, les différentes parties du corps. Regardons encore les versets 15 et 26. Dans un premier temps, des versets 15 à 20, l'apôtre répond aux croyants qui font un complexe d'infériorité et qui n'ont pas vraiment l'esprit de corps à cœur. Regardez le verset 15. « Moi, je suis un pied, dit le pied. Et franchement, je suis un peu bête comme mes pieds. Je ne serai rien dans ce corps, je suis un pied. Je n'ai pas la dextérité de la main pour attraper une banane, par exemple. Tout ce que je sais faire, c'est avancer. La main n'a pas vraiment besoin de moi, n'est-ce pas ? Pas vraiment. Ou regardez encore le verset 16. « Moi, je suis une oreille, et je ne sers pas à grand-chose non plus, puisque je suis une oreille. » Contrairement à l'œil, je ne vois rien. Tout ce que j'ai à faire, c'est entendre et écouter. L'œil n'a pas vraiment besoin de moi. Quelle est la réponse de Paul à ce complexe d'infériorité? Les petits loups, les amis, Corinthiens, ne faites pas de complexe d'infériorité. Ne sous-estimez pas l'importance du rôle que Dieu vous a confié et que vous jouez dans le corps dont vous faites partie, mais intégrante. Ayez plutôt l'esprit de corps à cœur. Et puis des versets 21 à 26, dans un second temps, Paul répond aux croyants qui font un complexe de supériorité. C'est bien, hein, qui suit. Et qui n'ont pas vraiment l'esprit de corps à cœur non plus. Regardez le verset 21. Moi, je suis un œil. Ah, ah, mon œil. Et je n'ai pas du tout besoin de la main. Une main peut attraper une banane, c'est vrai, facile, c'est vrai, mais elle ne sert à rien, puisqu'elle ne peut pas, elle ne peut pas voir. C'est moi qui vois, et je peux très bien me passer d'elle. Je peux très bien me passer d'elle, puisque c'est moi qui vois, et elle ne voit pas. Ou encore le verset 21, moi je suis la tête, et je n'ai pas besoin des pieds. Les pieds d'ailleurs qui sont bêtes comme leurs pieds, hein, comme tout le monde le sait. Les pieds peuvent avancer, c'est vrai, mais moi, moi, j'abrite le système nerveux central. C'est moi qui décide tout. Je peux très bien me passer de tout le monde. Réponse de Paul dans ces versets, ne faites pas un complexe de supériorité, oui. Ne surestimez pas l'importance du rôle que Dieu vous a confié. Chaque membre du corps est important et nécessaire. Le Saint-Esprit dans lequel vous avez été baptisé pour former un seul corps vous a donné des dons différents. Vous n'avez pas les mêmes rôles, hein. Regardez encore les versets 29 à 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous portent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais la réponse évidente à ces questions est non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce sont des questions rhétoriques. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous ne sont pas docteurs. Tous ne font pas des miracles. Tous n'ont pas des dons de guérison. Tous ne parlent pas en langue. Tous n'interprètent pas, bien sûr. Parce que le Saint-Esprit a donné à chaque croyant des dons différents. Tous n'ont pas les mêmes dons. Au sein de ce corps que vous formez, le Saint-Esprit vous a donné une dépendance réciproque. Regardez le verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand j'ai mal à la tête, tout mon corps qui souffre. Tout mon corps qui souffre. Vous avez besoin les uns des autres. Ayez donc plutôt l'esprit de corps à cœur. L'esprit de corps à cœur. En 257, après Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein, l'empereur romain Valérien, si vous avez étudié l'histoire de l'Église, vous avez peut-être fait la connaissance de cet homme, l'empereur romain Valérien a ordonné la confiscation des trésors des églises de l'Empire. Est-ce que vous saviez ça? Je l'ai appris il y a quelques jours, hein. Un jour, les messagers de l'empereur, déterminés à appliquer cette loi de confiscation, demandent à un diacre nommé Laurence, où sont les trésors de l'Église? Nous devons les confisquer. Montrez-nous vos trésors. Le diacre a alors ouvert les portes de l'Église en grand et lui a répondu, voici les trésors de l'Église. Vous savez ce qu'il y avait à l'intérieur de l'Église? Les pauvres, des malades, des infirmes, des croyants, des chrétiens. Si nous sommes chrétiens, si vous êtes chrétien ce soir, dans le sens de disciple du Seigneur Jésus, si vous confessez que Jésus est Seigneur dans votre vie, vous êtes les trésors de l'Église que Dieu a rachetés à grand prix, au prix de la mort de son Fils sur la croix. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et nous sommes appelés à nous aimer comme il nous aime, comme il nous a aimés. À nous servir comme il nous a servis. À avoir l'esprit de corps à cœur comme Dieu lui-même a eu l'esprit de corps à cœur. En s'incarnant dans la personne de son Fils, dans un corps physique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Nous pouvons passer juste quelques secondes dans le secret de nos cœurs à réfléchir sur ce que nous avons lu dans cette parole de Dieu qui, je vous le rappelle, est inspirée. Le fait que le Saint-Esprit ait donné à tous les croyants la même confession, celle de la Seigneurie de Jésus, c'est peut-être le moment pour nous, certains d'entre nous, d'être renouvelé dans notre confiance en Dieu, dans notre confiance en Christ, dans notre désir de le suivre, de le servir. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants des dons différents. Vous avez peut-être un don à mettre au service de cette église ou d'une autre église, si vous êtes de passage. Le Saint-Esprit donne à tous les croyants une dépendance réciproque. Nous dépendons les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Notre Père, merci infiniment pour le don de ton esprit qui nous a tous donné la même confession, celle de la Seigneurie de Jésus, qui nous a tous donné des dons différents et une dépendance réciproque. Aide-nous à mettre en pratique ce que tu nous demandes de mettre en pratique dans ta parole pour nous servir les uns les autres, pour te servir, pour contribuer au corps de Christ, à l'édification du corps de Christ qu'est l'Église. Et tout cela, nous prions au nom de Jésus, sans lequel nous ne pouvons rien faire. et pour sa gloire. Amen.